pays, des éclaircies à l'ouest. Il ne fait que 3 degrés ce matin à Rennes, Limoges et dans le Cantal, 6 dans le Cotentin, 7 à Toulouse, 9 à Paris et 13 à Nice.
Vous écoutez Radio Classique, très bon réveil, il est pratiquement 6 heures.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et le premier journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
Mystère et inquiétude avec la multiplication des attaques contre les prisons françaises. Qui est derrière ? Les agents pénitentiaires vivent dans la crainte. Vers un reflux historique du commerce mondial cette année, la faute aux droits de douane voulus par Donald Trump. Et puis on n'a pas découvert d'extraterrestres, mais des astronomes ont détecté des indices de vie sur une planète hors du système solaire.
Le marché de l'hydrogène n'a pas vraiment décollé en France. Le gouvernement en prend acte, il revoit à la baisse ses ambitions pour le développement de la filière hydrogène. On y revient avec Pierre Pilet dans un petit quart d'heure. L'inquiétude monte progressivement chez les agents pénitentiaires.
Des prisons attaquées, des menaces sur la messagerie Telegram, les abords de domiciles visés. Les surveillants pénitentiaires sont inquiets. Clément Lopez est le secrétaire FO Justice à la prison d'Avignon-le-Pontet. Il est en contact avec ses collègues d'Aix-Luynes et de Toulon, lourdement visés ces derniers jours, et il craint pour leur sécurité.
J'ai encore en tête les mots de la collègue de Toulon qui me disait je n'avais plus de nouvelles de la collègue qui était au niveau de la porte en bas. Je me suis dit, elle a été exécutée. Maintenant, ça va être mon tour. Et c'est terrible de se dire ça. Là, on voit certains collègues apeurés avant de prendre leur service qui s'inquiètent. Du coup, on essaye de faire en sorte que chacun ne sombre pas dans la panique. Mais comment dire à nos collègues en même temps de faire attention quand ils font juste leur travail? Comment dire à nos collègues de lever la patte alors qu'au final, c'est juste les missions et les choses qu'on nous demande quotidiennement? En fait, on n'a pas encore les moyens financiers ni personnel de pouvoir lutter correctement pour la sécurité des agents. Si on ne trouve pas des solutions rapidement, tôt ou tard, il y aura un mort.
Le préfet de police de Paris renforce la vigilance autour des 27 prisons d'Île-de-France. Le président Emmanuel Macron assure, lui, que les auteurs des attaques seront retrouvés, jugés et punis. Les premiers éléments de l'enquête concordent vers un groupe organisé, mais les motivations restent mystérieuses, Charles Ducrot.
Le nom d'un surveillant pénitentiaire sur une boîte aux lettres apparaît en gros plan, puis un véhicule en feu. La vidéo de quelques secondes accompagnée d'un message de menace circule dans un groupe de la messagerie cryptée Telegram, DDPF, un groupe dont le sigle est systématiquement inscrit sur les sites ciblés, des prisons jusqu'au domicile de certains agents. Les autorités privilégient toujours l'idée d'une organisation liée au narcotrafic, mais l'hypothèse de la piste d'une convergence ultra-gauche-criminalité reste étudiée par le parquet national antiterroriste. Très prudent, tant les incertitudes demeurent autour de méthodes encore jamais vues. Du côté des établissements pénitentiaires, depuis hier, des rondes sont menées par des effectifs de gendarmerie ou de police autour des prisons partout en France. Les agents sont escortés par les forces de l'ordre à chaque relève, détaillent plusieurs syndicats qui précisent que leurs collègues directement visés ont immédiatement été placés sous protection policière. Le ministère de l'Intérieur ne détaille pas les chiffres de ces opérations, mais confirme l'étude de nouvelles mesures.
À 8h15, Frédéric Ploquin sera l'invité de la matinale de Radio Classique. Il est spécialiste du grand banditisme et du renseignement intérieur pour nous aider à y voir plus clair sur ces attaques de prison. Pierre Moscovici est de très mauvaise humeur. Le premier président de la Cour des comptes menace de ne plus certifier les comptes de l'État si les recommandations faites par l'institution ne sont pas mieux suivies par le gouvernement. Il étrille notamment l'exécution chaotique du budget 2024 en reconnaissant que le budget 2025 s'annonce un peu mieux.
Et on y reviendra en détail avec Pierre Pilet tout à l'heure dans le journal de l'économie. Les perspectives sont très mauvaises pour le commerce mondial.
On dit merci qui ? Donald Trump et ses droits de douane vont porter un coup sévère au commerce mondial. L'OMC estime que le commerce va reculer de 0,2%, ça pourrait aller jusqu'à 1,5% si l'Europe riposte sévèrement par exemple. C'est toute la croissance mondiale qui est menacée pour l'Organisation mondiale du commerce, Eric Koch.
Dans cette guerre commerciale, les premières victimes seront les pays d'Amérique du Nord, prédit l'OMC. Les exportations entre les États-Unis et ses voisins, le Canada et le Mexique, ciblés tous deux par les barrières douanières américaines, devraient sombrer de 12,6%, tandis que les importations chuteraient de 9,6%. Le bras de fer entre Pékin et Washington pourrait également provoquer un détournement important des échanges, affirme l'organisation. Par conséquent, les exportations de produits chinois devraient bondir de 4 à 9% partout dans le monde, à l'exception bien sûr des États-Unis. Une inquiétude majeure pour de nombreux pays, dont l'Europe. Et même si les droits de douane américains ne frappent que les biens, il y aura des impacts sur les services. Avec moins de marchandises échangées, la demande sur le fret maritime et la logistique pourrait chuter, souligne l'OMC. Conséquence, la croissance dans les services ne devrait être que de 4%, soit un point de moins que prévu. Ces prévisions restent bien entendu soumises à la menace de Donald Trump de reprendre sa guerre commerciale mondiale dans un peu plus de 80 jours et aux éventuelles ripostes internationales.
Donald Trump qui veut parvenir à un accord avec le Japon sur les droits de douane dans les 90 jours. Le Premier ministre japonais tempère ses ardeurs. Les négociations ne seront pas faciles, prévient-il. L'Ukraine, au programme des discussions. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, ainsi que l'émissaire spécial Steve Witkoff. Les discussions vont sans doute aussi s'engager sur l'Iran. Les Américains demandent l'arrêt complet des programmes d'enrichissement de l'uranium iranien. Le pouvoir iranien refuse. Le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, prévient l'Iran n'est pas loin de posséder l'arme nucléaire. Il vient d'arriver à Téhéran pour discuter, mais ses marges de manœuvre sont étroites, nous dit Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'IFRI.
Le pouvoir de l'AIEA sur l'Iran est quand même relativement limité et tout le monde attend de voir ce qui va se passer lors des prochaines réunions entre Abbas Al-Orchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, et Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient. Il faut être très prudent. On peut imaginer que l'AIEA aura un rôle important de vérification si jamais il y a un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc il est très important pour l'AIEA de maintenir le contact avec l'Iran. Même s'il est quelque part impuissant, il est très dépendant de ce qui va être négocié entre l'Iran et les États-Unis.
Des propos recueillis par Servane de Pastre. Est-ce que la trêve reviendra à Gaza ? Le Hamas est encore en train d'étudier la nouvelle proposition de cesser le feu d'Israël. Dans le même temps, le gouvernement israélien exclut toujours toute entrée d'aide humanitaire sur le territoire. Un mois après la reprise des combats, la Tour Eiffel s'est illuminée hier soir avec le mot « paix » qui scintillait en arabe, en hébreu, en français, en anglais. Des Israéliens et des Palestiniens se sont retrouvés pour lancer un appel à la paix. Lauriane Toulmont les a rencontrés.
Mao Zinon est israélien. Ses parents ont été tués par le Hamas le 7 octobre 2023.
Moi et mes quatre frères et sœurs, on a tous rejeté l'idée de revanche et choisi le chemin de la réconciliation. Croire que la guerre peut permettre de se défendre, les bombes apporter le silence et les murs la sécurité, ça n'a jamais marché.
Il voit avec inquiétude les allégations du Premier ministre israélien et du président américain Donald Trump, qui entendent construire une riviera à Gaza en expulsant les Palestiniens.
Leurs rêves sont nos cauchemars. Les États-Unis ont leurs propres problèmes. On ne peut pas les attendre. J'espère que la France, avec le président Macron, aura une position de leader dans les négociations de paix. C'est crucial.
Le président de la République milite pour une reconnaissance mutuelle de l'État palestinien et d'Israël. Une position que soutient Ibrahim Abou Ahmad, palestinien et citoyen israélien.
Il n'y a pas de sécurité pour Israël sans libération de la Palestine, et il n'y a pas de libération de la Palestine sans sécurité d'Israël. Si on continue la guerre, on disparaîtra. Regardez les Amérindiens, ils ont été éradiqués. Maintenant, ils sont juste une part d'histoire. Je ne veux pas que ça arrive à mon peuple.
Ces pacifistes israéliens comme palestiniens attendent beaucoup du sommet des Nations Unies sur la Palestine en juin prochain, organisé par la France et l'Arabie Saoudite.
Et s'il y avait bien une vie hors de la Terre, des astronomes ont découvert des indices prometteurs de l'existence d'une vie sur une planète hors de notre système solaire. Bonjour Chloé Sénard.
Bonjour.
Alors on est encore loin d'avoir découvert des extraterrestres.
Et tout se passe sur la planète K2-18b, située à 124 années-lumière de la Terre. Une équipe de chercheurs américano-britanniques a utilisé le télescope spatial James Webb pour l'observer et a détecté des signes de composés chimiques dans son atmosphère, ce qui pourrait attester d'une possible vie extraterrestre. Mais ces signes restent cependant bien au-dessous du seuil qui permet aux scientifiques de valider une découverte. Des chercheurs n'ayant pas participé à l'étude appellent à prendre ces résultats avec précaution. Pour eux, les composés chimiques peuvent être produits par d'autres moyens, encore inconnus. Et surtout, K2-18b serait beaucoup trop chaude pour abriter la vie et pourrait même abriter des océans de lave. Pour l'équipe de scientifiques à l'origine de l'étude, il faut encore 16 à 24 heures d'observation supplémentaire pour valider ou non leur découverte. Le résultat est attendu dans les prochaines années.
Merci Chloé Sénard.
Et puis peut-être qu'un jour on trouvera des petits bonhommes orange en dehors de la Terre. Des risques d'avalanche aujourd'hui dans les Alpes, Virginie.
C'est un retour sur Terre un peu brutal. Alerte orange en Savoie. On est en pleine vacances scolaires, donc attention si vous avez prévu de skier, notamment près de la frontière italienne. Un risque de 4 sur 5. Il ne faut pas le prendre à la légère, nous dit Stéphane Bornet, le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches.
Le risque 5 est pris extrêmement rarement. d'armement et est souvent accompagné d'arrêtés municipaux, d'interdiction d'accès à certains secteurs, et là on ne sort pas en montagne. Le risque 4 est donc le risque maximum qui va engendrer une activité accidentelle et, dans le cas présent, provoquer des avalanches de très grande ampleur. Donc, grande prudence. L'épisode perturbé va être suivi probablement par une journée de vendredi plutôt bien ensoleillée qui va pouvoir inciter peut-être certains pratiquants à se rendre en dehors des secteurs aménagés. Et donc, ça ne sera pas une bonne idée vendredi. Il va falloir plutôt repousser cette sortie et plutôt être sur de la frustration que sur de la mise en danger.
La parité dans le sport, ça n'est pas encore gagné. Le Haut Conseil à l'égalité ne s'inquiète pas pour les sportives en elles-mêmes, mais s'inquiète du manque de femmes dans les instances sportives et parmi les entraîneurs, Marine Salaville.
Seulement un tiers de femmes parmi les dirigeants de clubs ou de fédérations et aussi un tiers de femmes encadrantes, comprenez les éducatrices, les cadres techniques sportifs et les coachs, y compris dans les sports féminins. Ce chiffre est même en baisse depuis 10 ans. De même, moins de 10% des arbitres professionnels sont des femmes. À l'inverse, comme dans d'autres milieux, elles sont majoritaires dans les métiers liés aux soins et à l'aide à la personne, comme le sport pour la santé ou à destination des personnes en situation de handicap. En guise d'explication, le rapport cite le peu d'étudiantes au sein des formations STAPS qui mènent vers les métiers du sport, mais aussi la valorisation d'un idéal de virilité et le manque de modèles féminins. Pour surmonter ces obstacles, le Haut Conseil formule 40 recommandations, comme la création d'un programme pour encourager les jeunes filles à choisir ces métiers ou encore le conditionnement de subventions publiques à des objectifs de féminisation.
Et puis le PSG connaît son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce sera Arsenal. Les Anglais ont battu le Real Madrid 2-1 hier, ils avaient déjà gagné 3-0 à l'aller.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, prochain journal ce sera à 6h30. Dans 3 minutes, l'invité de Comment j'ai réussi, Jean-François Létard, président d'Olicrom. Nous parlerons de matériaux qui peuvent changer de couleur en fonction d'éléments extérieurs, ça peut être la température, la pression, avec des applications qui semblent très prometteuses. 6h20, les classiques de l'économie. Natacha Valla nous parlera du rôle que peuvent jouer les banques centrales dans la transition écologique. Et puis à 7h15 ce matin, Emmanuel Guichard, le délégué général de la FEBEA, la Fédération des entreprises de la beauté, nous parlera de la guerre commerciale avec les États-Unis et de ses conséquences prévisibles pour l'industrie des cosmétiques. 6h11 sur Radio Classique. Très bon réveil.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, les conséquences de la guerre commerciale sur le commerce mondial. L'OMC prévoit désormais un ralentissement pour cette année, moins 0,2% dans le meilleur des cas, et jusqu'à 1,5% de baisse en cas de riposte généralisée, notamment de la part de l'Europe et des pays asiatiques. Dans son rapport, l'OMC s'inquiète du découplage très préoccupant des États-Unis et de la Chine et estime que les Américains en seront les premières victimes. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie s'étend au monde économique. Le patronat algérien annule une visite prévue à Paris. Le Conseil du renouveau économique algérien devait rencontrer le MEDEF, son équivalent français. Rendez-vous annulé après le regain de tension de ces derniers jours entre les deux pays. La Cour des comptes menace de ne pas certifier le budget de l'État si ses recommandations ne sont pas davantage prises en compte par le gouvernement. Pierre Moscovici, à la tête de l'institution, rappelle que les comptes de l'État sont systématiquement certifiés avec des réserves significatives depuis pratiquement 2 décennies. Il dénonce notamment la gestion des comptes l'an dernier par le gouvernement français. La France qui revoit ses ambitions à la baisse pour le développement de la filière hydrogène. Elle vise désormais 4,5 gigawatts de capacité de production à l'horizon 2030, c'est-à-dire 30% de moins que l'objectif initial fixé en 2020. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
C'est le fait économique du jour. Le marché de l'hydrogène n'a pas vraiment décollé en France. Les industriels du secteur dénoncent un manque de soutien de la part de l'État.
Le gouvernement répond avec une enveloppe de 4 milliards d'euros. Elle fait partie des 9 milliards de la stratégie globale annoncé en 2020. Plus de 150 projets ont été soutenus, mettant en avant l'État qui vise 8000 emplois d'ici 2030. Problème, le secteur patine, demande trop faible, manque de rentabilité. Les entreprises qui fabriquent des électrolyseurs, ces machines essentielles pour produire l'hydrogène vert afin de décarboner l'industrie, eh bien, elles ne trouvent pas de débouchés. La feuille de route publiée après des mois d'attente parle de lissage des objectifs. Plusieurs projets supplémentaires vont être soutenus. Plus de 90 millions d'euros pour le projet de Total Énergie Alamed dans les Bouches-du-Rhône, près de 100 millions d'euros pour l'entreprise Génie qui construit une usine de production d'électrolyseurs dans le Doubs. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, se rend d'ailleurs sur place aujourd'hui. Mais la branche reste fragile. En voici une illustration. 114 millions d'euros injectés dans l'entreprise française McPhy pour construire une gigafactory, une grande usine à Belfort. Elle a été inaugurée l'année dernière et le groupe cherche déjà un repreneur.
Merci beaucoup Pierre Pilet. La Banque Centrale Européenne doit annoncer aujourd'hui une nouvelle baisse de taux de 25 points de base. Annonce prévue à 14h15 précisément. 25 points de base, ce sera notre chiffre du jour juste avant le journal de 7h avec Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Tout de suite l'invité de Comment j'ai réussi.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
Bonjour Jean-François Létard.
Bonjour à vous.
Président d'Olicrom, vous êtes un spécialiste de la science des matériaux. Vous êtes implanté près de Bordeaux. Vous produisez des matières qui sont capables de changer de couleur en fonction de leur environnement, par exemple en fonction de la température ou de la pression. Quelles sont les utilisations potentielles de ces matières ?
Alors, c'est des matériaux qui sont capables d'être réactifs et d'être sensibles à l'environnement extérieur. Et donc de changer de couleur par cette perturbation, température, lumière, pression, fuite de gaz. Et en fait, c'est des matériaux dont les applications peuvent être un peu partout pour l'industrie. Parce que le changement de couleur permet d'alerter sans électronique, sans rien, puisque dès que l'événement se produit, eh bien, l'opérateur peut voir un changement de couleur.
Des applications aussi très utiles pour tout le monde en matière de sécurité. Vous proposez notamment des peintures phosphorescentes capables de restituer de la lumière pendant des dizaines d'heures. Ça permet par exemple de sécuriser des zones de danger comme des passages piétons.
Oui, on s'est inspiré des algues et des poissons qui, dans l'océan, utilisent cette émission de lumière pour s'orienter. Eh bien, on a déployé ça avec le groupe Eiffage initialement, hein, puisque c'était une demande du groupe Eiffage. C'est est-ce qu'on peut développer une peinture qui soit capable de se charger la journée et la nuit de s'illuminer pour guider, pour créer un guide pour les piétons et les vélos. Et notamment les piétons dans toutes les villes qui éteignent aujourd'hui l'éclairage public. Eh bien, en fait, le piéton, soit, eh bien, il est obligé de sortir son smartphone pour arriver à s'orienter sur le trottoir. Soit, eh bien, on déploie sur le trottoir des bandes luminescentes qui, sans électricité, vont guider le piéton.
Mais des éléments phosphorescents, ça existe déjà depuis pas mal d'années.
Ça existe depuis très longtemps, puisque on l'a dans la chambre des enfants, je dirais, par la petite étoile.
Ou pour signaler la sortie d'un bâtiment, un extincteur, des oui. équipements de sécurité généralement.
Ces peintures luminescentes, en fait, ne durent dans la nuit qu'une heure et demie. C'est pour permettre l'évacuation. Et là, le saut technologique qu'Olicrom a fait, qui est un brevet que nous détenons, c'est d'être capable d'avoir une émission pendant plus de 10 heures la nuit.
Donc effectivement, ça permet de couvrir en règle générale toute la nuit. Il y a aussi un enjeu environnemental important, puisque vous permettez de remplacer certaines matières, soit qui ne sont plus autorisées pour des raisons sanitaires, ou qui sont en voie d'épuisement. Et là, il y a effectivement quelque chose d'intéressant.
Oui, parce que lorsqu'on est capable de travailler sur la couleur, eh bien, on est capable de recréer des couleurs qui aujourd'hui posent des problématiques, notamment pour la réglementation. Et les industriels, eh bien, viennent nous voir pour reprendre la base de cette couleur et être capable de recréer un matériau qui va avoir cette composante couleur, mais aussi une composante d'opacité, une composante dans la formulation, parce que très souvent, un matériau qui est utilisé, il est là pour sa couleur, mais aussi pour d'autres propriétés. Et donc, c'est très complexe de remplacer une matière.
Vous l'avez mentionné rapidement, des matériaux ou des peintures capables de changer de couleur en cas de fuite de gaz. Là aussi, on imagine toutes les utilisations possibles en matière de sécurité.
Oui, alors on a un développement avec GRT Gaz sur les fuites de gaz naturel. On a des développements dans l'hydrogène aujourd'hui pour accompagner toute cette filière qui se développe. Et vous en avez fait mention juste à l'instant. Nous intervenons pour apporter un élément de sécurité pour détecter des cas de fuite. En fait, Olicrom, on est sur ces matériaux qui changent de couleur. On est quelque part unique dans le monde, puisqu'on a plus de 60% aujourd'hui notre chiffre d'affaires qui est à l'export. et on a des demandes d'un peu partout, de tous les secteurs industriels.
Parmi tous ces produits, qu'est-ce qui est déjà commercialisé et qu'est-ce qui est encore au stade de développement ?
Alors, on a cette peinture luminescente qui est largement communiquée, luminochrome. À côté de ça, on a d'autres produits qui sont sur le marché, mais qui sont quelque part confidentiels et distribués par nos partenaires industriels. Et puis, on a beaucoup de produits en développement, notamment dans l'environnement, notamment autour de ces éléments de sécurité.
Est-ce que ces matières qui changent de couleur en fonction de l'environnement sont sans danger pour l'être humain, pour l'environnement, ou est-ce qu'il y a des composés chimiques qui potentiellement peuvent se disséminer dans l'environnement ?
Alors, on essaye au maximum d'être, je dirais aujourd'hui, éco-conçu, éco-responsable.
Mais ça reste de la chimie.
Ça reste de la chimie, donc on regarde bien les matières premières. Par exemple, pour ces peintures luminescentes, on a bien pris tout ça en compte. Aujourd'hui, on a une peinture luminescente en phase totalement d'eau, une peinture à l'eau. Pour d'autres éléments, quand on travaille dans certains secteurs industriels où l'enjeu de sécurité est essentiel, eh bien, on a des autorisations pour pouvoir travailler sur des chimies un peu plus complexes, puisque l'enjeu de sécurité prend le dessus sur certains enjeux de réglementation.
Je vous ai entendu pester contre le poids des normes dans d'autres interviews, notamment contre la réglementation européenne. Vous considérez que c'est un frein à l'innovation ?
Ah oui, totalement. Je vais vous donner un exemple. Cette peinture luminescente, elle a été développée, on la commercialise sur les voies vertes aujourd'hui depuis plus de 6 ans en France. Eh bien, on a passé toutes les démarches pour obtenir la certification. On a obtenu du CEREMA une lettre de conformité de notre peinture. Eh bien, on attend depuis 2 ans le droit d'usage délivré par l'ASQER, qui nous est toujours pas délivré. Et donc, on a plein de collectivités qui nous demandent de déposer cette peinture sur des passages piétons, notamment dans les villes qui éteignent.
Et pour l'instant, ça n'est pas possible.
Ouais.
Un dernier mot, vous avez été chercheur au CNRS pendant 10 ans. Votre entreprise, Olicrom, a été finaliste des trophées INPI 2025 dans la catégorie industrie. J'imagine qu'il y a une certaine fierté.
Oui, il y a une fierté. Mais au-delà de ça, quand on démarre une entreprise, très souvent, on a un bagage d'innovation, de propriété intellectuelle. L'enjeu, c'est de le conserver. Quand vous travaillez au contact de grands groupes, très souvent, ces grands groupes, comme ils cofinancent ou ils financent une partie des investissements, eh bien, ils sont tentés de demander la propriété intellectuelle. Et c'est une bataille de tous les jours pour qu'une entreprise à la taille d'une PME comme la nôtre, eh bien, conserve cette propriété industrielle, intellectuelle, parce que c'est une richesse, c'est un moteur de croissance. C'est une différenciation vis-à-vis de l'étranger et c'est quelque part préparer l'avenir. Et tous les jours, eh bien, ou tous les ans, on dépose un certain nombre de brevets, de marques, de droits de domaine pour protéger les développements qu'on est en train de réaliser.
Merci beaucoup Jean-François Létard, président d'Olicrom, spécialiste de la science des matériaux. On vous retrouvera peut-être bientôt sur nos passages piétons et ceux qui les verront s'illuminer automatiquement tout seul la nuit pourront penser à vous. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Natacha Valla nous a rejoint. Cette question ce matin, est-ce que les banques centrales peuvent faire quelque chose pour la transition écologique ?
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Bonjour Natacha Valla.
Bonjour Stéphane.
Doyenne de l'école de management de Sciences Po, ce matin on parle des banques centrales et de la question climatique. Est-ce que c'est vraiment la mission des banquiers centraux de s'occuper du climat ?
Alors ça paraît assez éloigné de l'objectif de premier de stabilité des prix qui a été donné aux grandes banques centrales. Pour le climat quand même, on sait que la réduction des émissions de carbone, c'est pratiquement le seul moyen d'éviter le pire dans les changements climatiques. Et en Europe, on a un engagement de réduction des émissions. On sait que c'est 55% à horizon 2030, neutralité carbone à horizon 2050. Avec une banque centrale qui a un bilan énorme, qui porte beaucoup d'actifs et qui influence le prix du financement des actifs, ça paraît un peu court de dire « circuler n'a rien à voir, la Banque centrale doit s'occuper d'autre chose ». On verra dans quelle mesure on doit prendre cet engagement de façon profonde. Pour le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il énonçait ça dans des termes assez pédagogiques, je pense. Il disait on peut faire osciller cette question entre l'illusion d'une capacité à donner un coup de baguette magique. On fait de la création monétaire et de façon assez naïve, on se dit « avec cet argent sorti de nulle part, on va financer tout ce qui n'est pas finançable et on aura fait notre transition comme ça de façon complètement magique. Et puis, l'inverse, c'est la politique de l'autruche, où la Banque centrale se dirait « Non, moi, c'est pas mon sujet, c'est le sujet des gouvernements, c'est le sujet du secteur financier. Circuler, il n'y a rien à voir. » Donc, ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables, il faut trouver un juste milieu.
Alors, vous l'avez dit, le climat n'est pas officiellement sur la feuille de route des banquiers centraux. Néanmoins, le dérèglement climatique risque d'avoir un impact sur la stabilité monétaire.
Oui, sur la stabilité monétaire, sur la stabilité des prix, qui elle-même est un objectif premier pour la Banque centrale. Alors, on parle de greenflation, de l'inflation verte. Et ça, c'est dans un contexte où, et ça a été très bien décrit dans les grands rapports qui regardent la transition verte, mais on a besoin de s'éloigner graduellement des technologies polluantes au profit de technologies propres. Donc, ce qu'on a besoin de faire quand même d'une certaine manière, c'est d'augmenter le prix, le coût des technologies polluantes et de réduire celui, en termes relatifs, des technologies qu'on souhaite mettre en œuvre à grande échelle. Donc, on souhaite agir sur des prix relatifs. Et quand on agit sur des prix relatif, eh bien, ça a une influence sur l'évolution générale des prix. On ne peut pas considérer qu'on va augmenter les prix d'un côté, les baisser suffisamment de l'autre pour que dans l'ensemble, ça ait un effet neutre sur l'inflation, d'autant que les technologies polluantes, on n'a plus du tout envie de les financer. Donc, il va y avoir un resserrement de la production, on va appliquer une contrainte sur l'offre de la production des biens polluants, ça va avoir une action mécanique sur l'augmentation du prix. Donc, c'est un dilemme vert pour les banques centrales, on l'a appelé comme tel. D'un côté, elles pourraient dire « je regarde à travers, I look through, je laisse passer ces fluctuations de prix à court terme qui vont peut-être créer de l'inflation, de façon à peu près certaine, vont créer de l'inflation. Pourquoi ? Parce que si je mets en œuvre tout de suite une politique monétaire restrictive, ce qui serait mon réflexe, si j'étais vraiment uniquement ciblée sur mon objectif de stabilité des prix, eh bien, je pourrais créer des anticipations d'ajustement de long terme et je pourrais créer un cycle et des fluctuations macroéconomiques avec une volatilité qui, elle, serait au détriment de la stabilité des prix et de la croissance. Donc, l'idée, c'est d'intervenir activement, mais de façon assez modérée.
En pratique, est-ce que les banques centrales ont déjà commencé à verdir leur politique monétaire ?
Alors, elles l'ont fait. Ça a été plus facile à faire sur la version quantitative de la politique monétaire. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que les banques centrales aujourd'hui augmentent ou baissent leur taux d'intérêt en fonction de la transition. Ça, c'est pas vrai et c'est sans doute assez sain que ce ne soit pas le cas.
En revanche, elles l'ont fait à travers les liquidités disponibles.
Exactement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, et de tout temps en fait, mais aujourd'hui encore plus, la mise à disposition de liquidités, les achats de titres par les banques centrales représentent une partie importante de la mise en œuvre de la politique monétaire. On a ajusté le pool, l'ensemble d'actifs achetés ou l'ensemble de l'actif sur lesquels la Banque centrale réinvestit. Et on ajuste un peu les critères d'allocation de la liquidité au système bancaire.
La question climatique, en quelques mots, c'est tout de même du ressort des gouvernements, avant tout.
C'est bien sûr avant tout du ressort des gouvernements. Ce sont des décisions qui sont contrôlées démocratiquement. C'est pas du tout à la Banque centrale d'aller faire la transition à la place des grandes politiques publiques.
Merci beaucoup Natacha Valla, on se retrouve demain à suivre l'actualité du classique. 6h26 sur Radio Classique, tout au long de la semaine, nous vous présentons les concerts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce soir à 20h30 au Conservatoire Darius Milhaud, le récital de la jeune pianiste russe Alexandra Dovgan. Elle jouera la sonate pour piano numéro 2 de Schumann, prélude, chorale et fugue de César Franck, la sonate pour piano numéro 2 de Prokofiev, ainsi que la sonate pour piano numéro 31 de Beethoven, dont voici un extrait. Thank you. Un extrait du premier mouvement de la sonate pour piano numéro 31 de Beethoven que jouera la jeune pianiste russe Alexandra Dovgan ce soir à 20h30 au conservatoire Darius Milhaud dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dont Radio Classique est partenaire. Dans un instant, le journal de 6h30, 6h50, le chiffre du jour, 25 points de base, c'est la baisse de taux que la Banque Centrale Européenne doit annoncer dans les prochaines heures. Sauf surprise, ce sera la 6e baisse consécutive. On en parlera tout à l'heure à 6h50 avec Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. La météo de ce jeudi avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Lumineux à l'ouest, nuageux à l'est.
Lumineux avec une alternance de nuages et d'éclaircies, mais au sec, contrairement aux régions de l'Alsace aux Alpes. La Corse est d'ailleurs en vigilance orange, pluie, inondation. La Savoie pour des risques d'avalanche. Les températures au meilleur de la journée. 15 à Lille et Nantes, 17 à Paris, 11 à Lyon, 14 à Toulouse et 15 à Nice.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et Charles Bonner pour le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin des discussions qui traînent sur l'Ukraine pour les faire avancer, le secrétaire d'État américain est à Paris aujourd'hui. Des prisons menacées et attaquées, mais une revendication floue. L'enquête continue pour comprendre qui en est à l'origine. Et puis dans le grand bain des offres de gaz et d'électricité, un guide est publié ce matin pour s'y retrouver.
Conséquence de la guerre commerciale, l'OMC prévoit désormais un ralentissement du commerce mondial pour cette année, 0,2% dans le meilleur des cas, beaucoup plus en cas de riposte généralisée. Deux diplomates américains sont reçus à l'Élysée aujourd'hui.
Dont le principal, le secrétaire d'État Marco Rubio, accompagné de l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Leur première venue en France pour discuter du cessez-le-feu en Ukraine. L'Europe qui jusque-là était exclue des discussions menées avec la Russie. La Russie qui continue de frapper l'Ukraine, Lucie Dupressoir.
Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours, un compte à rebours qui expire à la fin du mois. Il y a donc urgence à accélérer les négociations, estime André Caspi, historien des États-Unis.
Ça veut dire que pour Donald Trump, il faut se débarrasser du dossier ukrainien, il faut passer à autre chose. Il a tout fait pour essayer d'arrêter le conflit. S'il n'y est pas parvenu, ça n'est pas sa faute à lui. C'est surtout la faute de Poutine.
Car le président américain s'est heurté jusque-là au fonctionnement diplomatique russe, explique Ulrich Bouna, géopolitologue spécialiste de l'Europe de l'Est.
Vladimir Poutine essaye toujours de faire durer des négociations sur des semaines et des semaines. À chaque fois que les Américains ont proposé quelque chose, les Russes ont répondu par autre chose. Il est aussi probablement expert pour négocier des accords extrêmement compliqués, quasiment impossibles à mettre en œuvre. Il n'y a aucune surprise dans cette posture de la part des Russes. Et malheureusement, Donald Trump a, on va dire, un peu foncé droit dans le panneau.
Au risque, selon Ulrich Bouna, que Donald Trump se lasse des tergiversations de la Russie et se désengage du dossier ukrainien.
En revanche, sur le dossier du nucléaire iranien, les États-Unis maintiennent la pression et vont négocier samedi par l'intermédiaire d'Oman. Et il y a urgence, selon le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui estimait hier que l'Iran n'était pas loin de posséder l'arme nucléaire. Pourtant, les lignes se tendent alors que les discussions viennent à peine de reprendre, Servane de Pastre.
L'Iran n'arrêtera pas d'enrichir son uranium et ce n'est pas négociable selon Téhéran. La ligne rouge est fixée alors que les États-Unis durcissent le ton. Ce mardi, Steve Witkoff a réclamé l'arrêt complet des programmes d'enrichissement de l'uranium en Iran, condition selon lui pour garantir la paix et la stabilité dans la région. L'émissaire américain redoute une utilisation militaire de l'énergie atomique alors que les capacités d'enrichissement de l'Iran se sont fortement accélérées ces dernières années. L'uranium est désormais enrichi à 60% selon les données officielles iraniennes, peut-être même plus selon certains observateurs, dont les États-Unis. C'est en tout cas bien au-delà des 3,7% autorisés par l'accord de 2015 sur le nucléaire. Ces capacités, Téhéran se dit prête à les limiter, mais pas question d'un arrêt complet. Trump veut un accord, il n'aura pas d'autre choix que de transiger, estime Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'IFRI. De nouvelles négociations sont prévues ce samedi à Rome.
Servane de Pastre, 30% du territoire de Gaza est désormais une zone tampon. Israël continue son offensive et morcelle le territoire tout en excluant une reprise de l'aide humanitaire. Le djihad islamique a publié une vidéo d'un otage à Gaza. S'y rend-elle au nom du collectif? Giorgia Meloni, la présidente du conseil italien, italien aux États-Unis aujourd'hui pour y rencontrer Donald Trump et évoquer les droits de douane, même si les accords commerciaux, c'est une compétence de la Commission européenne. Des négociations, le Japon emmène actuellement des progrès importants selon le président américain qui s'attend à un accord dans les 90 jours.
6h34, Emmanuel Macron est en déplacement dans l'océan Indien.
À partir de lundi, d'abord à Mayotte, pour un point sur la reconstruction de l'archipel détruit par le cyclone Chido en décembre. Les autres étapes, la Réunion, l'île Maurice et Madagascar. Emmanuel Macron qui réagissait hier aux attaques de prison, promettant l'arrestation, le jugement et la punition des auteurs de ces tags et incendies de voitures une nouvelle fois hier. Des attaques revendiquées par un groupe inconnu de défense des prisonniers, mais qui se cache derrière une mouvance anarchiste ou plutôt l'influence des narcotrafiquants. Joachim Pueyo est maire d'Alençon, ancien directeur d'administration pénitentiaire.
On peut penser que c'est peut-être une réponse à la politique pénale du garde des Sceaux lorsqu'il a pris la décision, effectivement, d'écarter les narcotrafiquants les plus dangereux avec des conditions de détention plus difficiles. Il y a un sujet de sécurité qui se pose là de manière très urgente. Ce genre d'attaque, c'est pour intimider, bien évidemment. C'est une action coordonnée d'une ampleur quand même qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et ça me fait penser d'ailleurs à des actions qu'on a pu observer compte tenu de l'ampleur du narcotrafic dans certains pays d'Amérique du Sud.
Propos recueillis par Charles Ducrot. Les premières pistes d'économie, le gouvernement à la recherche de 40 milliards d'euros pour le prochain budget. La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, évoque les niches fiscales. On en compte 467 avec un objectif d'y trouver 8 milliards d'euros. C'est un poste pour les ménages où il est possible de faire des économies à condition de s'y retrouver. Les contrats de gaz et d'électricité, le magazine 60 millions de consommateurs publie ce matin un numéro spécial, une analyse d'une centaine d'offres, Nina Droff, alors que les prix reculent.
Actuellement, le tarif réglementé de vente de l'électricité est en baisse. Depuis le 1er février, il a chuté de 15%. L'opportunité, selon le magazine, de faire des économies. Pour bien choisir, il faut s'intéresser au mécanisme d'évolution des prix du contrat. À un moment où le tarif réglementé est en baisse, il peut être avantageux d'opter pour une offre indexée sur ce tarif. Certaines offres proposent même des prix inférieurs au tarif réglementé, jusqu'à 7% moins cher, par exemple, pour le contrat Online et Green de Mint Energy. Il faut aussi être attentif aux différentes options proposées par les fournisseurs. Par exemple, l'option heure creuse peut être bénéfique pour certains ménages. Un certain nombre de contrats d'électricité verte proposent également des tarifs très compétitif actuellement.
Et Nina, pour le gaz, quels sont les conseils du magazine ?
Les perspectives sont moins optimistes. Le prix repère du gaz ne cesse d'augmenter et risque de ne pas baisser avant un certain temps. Mais une vingtaine de contrats proposent tout de même des tarifs en dessous de cet indicateur, comme l'offre GazZen d'Alterna ou Avantage Gaz EDF, qui peuvent permettre aux gros consommateurs d'économiser jusqu'à 200 euros par an. Là aussi, il faut bien étudier les différents types d'abonnements. Les contrats à prix fixe longue durée sont actuellement les moins onéreux à l'année. Mais attention, le tarif peut quand même augmenter avec une éventuelle hausse des taxes ou des coûts d'acheminement. Pour le gaz comme pour l'électricité, il ne faut donc pas hésiter à changer de fournisseur, selon 60 millions de consommateurs. Pour les particuliers, il n'y a pas de frais de résiliation ni d'engagement. Il suffit de souscrire à une nouvelle offre et c'est le nouveau fournisseur qui se chargera de la résiliation.
L'éclairage de Nina Droff. Les médecins et les internes en grève. Un appel est lancé à partir du 28 avril. Une grève illimitée pour s'opposer à une proposition de loi qui régule l'installation des médecins. L'article en question a été voté par l'Assemblée nationale, mais l'examen du texte n'est pas encore terminé. Il va reprendre début mai.
Et puis on termine ce journal par la difficile conciliation entre intelligence artificielle et droits d'auteur.
On savait cette technologie gourmande en énergie se pose la question des droits d'auteur. Après l'émergence ces derniers jours d'images reprenant les codes des mangas du studio Ghibli ou encore des Simpsons, reprises par des anonymes, des célébrités, Rémy Pfister, en fait, le cadre juridique ne permet pas de réguler les pratiques des fournisseurs d'intelligence artificielle.
Depuis 2019, une directive sur le droit d'auteur permet aux artistes européens de refuser que leurs œuvres servent l'intelligence artificielle. Mais les entreprises d'IA utilisent ce qui se trouve sur Internet sans transparence, explique maître Marie-Hélène Fabiani, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle.
C'est le souci, ils ont déjà absorbé beaucoup de données. Je compare avec Uber, quand ils sont arrivés avec les VTC en France, ils arrivent et ils dérèglent un système réglementé. On respecte le droit d'auteur et le droit de la concurrence loyale. Or,
vous êtes présumé avoir accepté que votre œuvre vienne nourrir l'intelligence artificielle.
Seule solution, se tourner vers les tribunaux. Le syndicat national de l'édition vient d'attaquer en justice le groupe Meta, la maison mère de Facebook. Renaud Lefebvre, directeur général du syndicat, regrette une absence de dialogue.
Tendance à vouloir passer en force avec l'impératif de l'innovation à tout prix qu'ils présentent comme les exonérants de tout respect, donc c'est dommage. Nous, de notre côté, qu'il s'agisse des auteurs et des éditeurs, on est vraiment déterminés à faire respecter nos droits. Si on veut qu'une économie d'intelligence artificielle se développe, elle a besoin de s'appuyer sur un cadre dans lequel il y a une forme de sécurité juridique.
Des dizaines de procès sont en cours en Europe et aux États-Unis. Le plus emblématique, celui du New York Times contre OpenAI, dure depuis 2 ans. Entre-temps, les fournisseurs d'IA ont signé des accords avec certains groupes de presse pour exploiter leur production.
Rémi Pfister et puis Gisèle Pellicot et Léon Marchand font partie du classement des 100 plus influents de l'année. C'est un classement du Time, tous deux dans la catégorie icône. L'une pour une démonstration de courage dans le procès de son ex-mari qu'il avait drogué et violé. L'autre pour sa motivation lors des derniers Jeux Olympiques.
Merci beaucoup Charles Bonner. Prochain journal, ce sera à 7h avec Virginie Fulpin. Le journal de l'économie comme tous les matins vers 6h42 et puis à 6h50, le chiffre du jour, nous parlerons de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui, sauf surprise, va annoncer une nouvelle baisse de taux.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
L'esprit des mots avec Luc Ferry qui tous les matins nous fait redécouvrir la mythologie. Luc, ce matin, l'histoire d'Orphée et d'Eurydice qui rappelle le caractère mortel des êtres humains.
Orphée, Orphéon, Orphée donc le plus grand musicien de tous les temps selon la mythologie grecque, supérieur même à Apollon, donc qui a donné son nom aux Orphéons, ces petits théâtres qu'on trouve dans les jardins publics où s'installent les fanfares, et donc Orphéon, petit théâtre dans lequel on dit que Wagner a joué l'ouverture de Rienzi, un de ses premiers ou peut-être même le premier opéra de Wagner, et donc Orphée, comme on sait, est tombé amoureux d'Eurydice, Eurydice est morte, elle a mis le pied malencontreusement sur une vipère, elle est dans les enfers et Orphée va la chercher dans les enfers. Et évidemment, c'est le moment déchirant. Il essaye de convaincre Hadès et Perséphone de laisser sortir sa femme parce qu'il est fou amoureux. Il dit « J'ai essayé d'oublier, mais je ne peux pas, l'amour est plus fort que l'oubli. Laissez-la sortir par pitié. » Perséphone finit par céder, elle a de la compassion pour lui. Elle dit « Ok, tu pourras sortir ton Eurydice, Eurydice pourra partir avec toi, mais à une condition, c'est qu'elle marche derrière toi en silence et surtout que tu ne te retournes jamais pour regarder si elle est bien là. » Et donc, ce qui est assez curieux, vous trouvez donc le récit chez Virgile, vous trouvez aussi un passage d'Ovide, mais ni Virgile ni Ovide n'expliquent pourquoi le malheureux Orphée ne peut pas résister, il se retourne, ils sont sur le chemin avec Eurydice qui sort des enfers, elle est derrière lui, mais il ne peut pas s'empêcher, il ne peut pas résister, il se retourne pour voir si elle est bien là, et ça trahit sa promesse de ne pas se retourner, et du coup la malheureuse va retourner vers la mort, retourner dans les enfers, et elle ne pourra pas sortir. Lui sortira, il aura d'ailleurs un destin épouvantable, parce que il est tellement amoureux de sa femme qu'il ne pourra plus jamais coucher avec une autre femme, donc il couche avec des garçons. Mais les femmes de son village n'aiment pas ça, elles détestent l'homosexualité, et elles vont se venger, figurez-vous, en le dépeçant vivant, en le déchiquetant vivant, donc mort absolument atroce. Mais en tout cas, que signifie ce mythe? Il n'est pas du tout évident, et encore une fois, ni Virgile ni Ovide ne vous expliquent la signification du mythe. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est toujours très profond dans la mythologie grecque, il y a toujours un message incroyable derrière. Ben, c'est que la mort est irréversible. La mort, c'est l'irréversibilité. Donc, on ne peut pas se retourner. On peut toujours se retourner vers son passé, mais ça ne fait rien revivre. L'irréversibilité, la mort dans la vie, c'est le passé qui est irréversible et qu'on ne peut pas faire revivre. Voilà, donc très, très profond message sur la signification de la mort et son lien avec la notion d'irréversibilité.
Merci beaucoup, Luc Ferry. On se retrouve demain matin.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
3 titres à la une de l'économie. L'Organisation mondiale du commerce s'inquiète de la guerre commerciale et prévoit un ralentissement des échanges mondiaux cette année. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie s'étend désormais à l'économie. Le patronat algérien annule une rencontre prévue avec le MEDEF. Et puis la Cour des comptes menace de ne pas certifier le budget de l'État si ses recommandations ne sont pas davantage prises en compte par le gouvernement. Conséquence de la guerre commerciale, l'OMC prévoit désormais un ralentissement du commerce mondial pour cette année, moins 0,2% dans le meilleur des cas, et jusqu'à 1,5% de baisse en cas de riposte généralisée, notamment de la part de l'Europe et des pays asiatiques. Éric Kioch.
Dans cette guerre commerciale, les premières victimes seront les pays d'Amérique du Nord, prédit l'OMC. Les exportations entre les États-Unis et ses voisins, le Canada et le Mexique, ciblés tous deux par les barrières douanières américaines, devraient sombrer de 12,6%, tandis que les importations chuteraient de 9,6%. Le bras de fer entre Pékin et Washington pourrait également provoquer un détournement important des échanges, affirme l'organisation. Par conséquent, les exportations de produits chinois devraient bondir de 4 à 9% partout dans le monde, à l'exception bien sûr des États-Unis, une inquiétude majeure pour de nombreux pays, dont l'Europe. Et même si les droits de douane américains ne frappent que les biens, il y aura des impacts sur les services. Avec moins de marchandises échangées, la demande sur le fret maritime et la logistique pourrait chuter, souligne l'OMC. Conséquence, la croissance dans les services ne devrait être que de 4%, soit un point de moins que prévu. Ces prévisions restent bien entendu soumises à la menace de Donald Trump de reprendre sa guerre commerciale mondiale dans un peu plus de 80 jours et aux éventuelles ripostes internationales.
Et en attendant les négociations se poursuivre, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, va rencontrer aujourd'hui Donald Trump à la Maison-Blanche. Sa proximité idéologique avec le président américain inquiète plusieurs pays européens, notamment la France. Giorgia Meloni avait récemment demandé à la Commission européenne de ne pas prendre de mesures de rétorsion contre les États-Unis. Le Japon a également entamé des discussions avec l'administration américaine. Les premiers échanges n'ont pas permis d'avancer sur la question des droits de douane. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu dans le courant du mois d'avril. Et puis aux États-Unis, la Californie a engagé une action en justice pour contester les droits de douane imposés par Donald Trump. Dirigée par les démocrates, l'État de Californie estime que les tarifs douaniers ne peuvent pas être mis en place sans accord du Congrès américain. Faut-il produire aux États-Unis pour éviter les droits de douane? C'est la question que se posent désormais les industriels du monde entier. Le groupe japonais Honda a choisi de délocaliser la production de son modèle hybride, la Civic, sur le sol américain. Elle était jusqu'à présent fabriquée au Japon. Honda explique que cette décision est en ligne avec la politique du groupe, produire là où les modèles sont le plus vendus. Pour autant, il ne s'agit pas d'installer une nouvelle usine, mais d'un transfert de production, puisque Honda dispose déjà de 12 sites industriels outre-Atlantique. Une fausse relocalisation, selon l'économiste Emmanuel Auriol, qui montre, selon elle, la défiance des industriels à réellement investir aux États-Unis.
Les investisseurs détestent l'incertitude. Avant toute chose, ils préfèrent à la limite des rendements plus faibles. Et là, on est rentré dans un monde, dans l'économie américaine, où du jour au lendemain, tout change, il fait volte-face. Ça ne va pas conduire à des investissements nouveaux. C'est juste de la communication de la part d'Honda, qui de toute façon produit déjà des voitures aux États-Unis. De toute façon, les constructeurs américains de voitures sont furieux parce que les pièces sont fabriquées partout sur la planète. Une Volkswagen, elle a fait 30 fois le tour de la Terre avant d'être conduite par quelqu'un. Mettre des droits de douane, ça va évidemment impacter aussi l'inflation, c'est tout.
La crise diplomatique entre la France et l'Algérie s'étend désormais au monde économique. Le patronat algérien annule une visite prévue à Paris. Le Conseil du renouveau économique algérien devait rencontrer son équivalent français, le MEDEF. Rendez-vous annulé après le regain de tension de ces derniers jours et l'expulsion réciproque d'agents diplomatiques. Pourtant, jusqu'ici, les deux organisations patronales travaillaient main dans la main. Et cette rupture inquiète Michel Bizac, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro. Française.
Les soubresauts politiques, jusqu'à maintenant, ne nous avaient pas atteints. Parfois, vous avez des problèmes, par exemple à la douane, ou pour importer, par exemple, les produits en agroalimentaire, etc. Mais il ne s'était pas passé grand-chose au niveau des rétorsions économiques. Sauf que il y a eu pas mal de rebondissements, et malheureusement, l'économie a rejoint le politique. Et donc aujourd'hui, nous avons tout à craindre pour les quelques mois qui viennent, en tout cas. Je ne sais pas où cette spirale va nous mener. Cela fait 19 ans exactement que j'ai mon entreprise à Alger. Je n'ai jamais vu une crise pareille. Jamais.
Quelles conséquences en cas de rupture des relations commerciales entre les deux pays? Plus de 400 entreprises françaises sont installées en Algérie. Et forcément, une rupture ne serait pas totalement indolore pour l'économie des deux pays, Zoé Pallier.
Il y aura des perdants des deux côtés, souligne l'économiste d'affaires Saïdan, spécialiste du sujet, car les échanges entre la France et l'Algérie, c'est 11 milliards d'euros en 2024. Nous importons leurs hydrocarbures, ils achètent nos produits industriels, équipements automobiles par exemple, ou encore produits pharmaceutiques. Et puis, il y a les investissements d'entreprises françaises en Algérie, marché à fort potentiel, avec une population de plus en plus nombreuse et de plus en plus riche. D'après nos informations, le Quai d'Orsay n'a pour l'instant pas donné de consignes particulières, mais les chefs d'entreprise s'interrogent. La situation ne favorise pas nos intérêts, on n'arrête pas encore nos investissements, mais on espère que les choses vont s'apaiser, confie l'entourage d'un grand patron français. En attendant, l'Algérie, elle, multiplie les contacts avec ses nouveaux partenaires commerciaux privilégiés, comme la Chine et l'Italie.
La Cour des comptes menace de ne pas certifier le budget de l'État français si ses recommandations ne sont pas davantage prises en compte par le gouvernement. Pierre Moscovici, à la tête de l'institution, rappelle que les comptes de l'État ont systématiquement été certifiés avec des réserves très significatives depuis 19 ans, Pierre Pilet.
Et concernant le budget 2024, la Cour des comptes relève 5 anomalies, des surévaluations et des sous-évaluations. Exemple avec le dérapage du déficit public. Mais la Cour ne parle pas toutefois d'insincérité parce que ça signifierait qu'il y a eu intention de tromper. Le budget 2025, lui, se présente un peu mieux selon Pierre Moscovici. La croissance à 0,7% n'est pas hors d'atteinte selon lui. La prévision d'un déficit à 5,4% du PIB peut être tenue, mais est loin d'être acquise selon le Haut Conseil des Finances Publiques, organisme indépendant rattaché à la Cour des comptes. Pierre Moscovici veut d'ailleurs renforcer le rôle de ce Haut Conseil pour qu'il valide les prévisions du gouvernement selon un mécanisme appliqué ou expliqué. S'il y a un doute sur une prévision, le gouvernement devra la modifier ou expliquer pourquoi il ne le fait pas.
Merci beaucoup Pierre Pilet. La France revoit ses ambitions à la baisse pour le développement de la filière hydrogène. Elle vise désormais 4,5 gigawatts de capacité de production à horizon 2030 et 8 pour 2035. Les objectifs ont été réduits de 2 gigawatts. Le gouvernement confirme toutefois son soutien financier à quelques grands projets emblématiques, notamment dans les transports. Le marché de l'hydrogène n'a pas véritablement décollé en France. Les industriels du secteur dénoncent un manque de soutien de la part de l'État. L'actualité entreprise, le groupe Lactalis est désormais le 9e groupe agroalimentaire mondial. Le géant des produits laitiers a publié un chiffre d'affaires annuel en progression de 2,8%. Pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, il dépasse la barre des 30 milliards d'euros. 6h51 sur Radio Classique. Tout de suite, le chiffre du jour. 25 points de base, c'est la baisse des taux que la Banque Centrale Européenne doit annoncer dans les prochaines heures. Sauf surprise, ce sera la 6e baisse consécutive et la 7e depuis le début du cycle de baisse de taux en juin 2024. Bonjour Alexandre Stott.
Bonjour.
Économiste chez Goldman Sachs, pourquoi est-ce que la BCE va encore baisser ses taux et pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement aucun doute sur la décision d'aujourd'hui ?
Oui, donc la BCE cet après-midi va baisser son taux directeur de 25 points de base, c'est quasiment certain. La raison principale, c'est parce que les perspectives de croissance se sont fortement détériorées suite aux annonces des tarifs douaniers de Trump aux États-Unis, mais aussi car l'inflation, au final, reste proche de la cible de 2%, et car les conditions financières se sont pas mal resserrées, donc avec un marché actions en baisse, un euro en hausse. Et donc tout ça dans son ensemble, ça devrait permettre au Conseil des gouverneurs d'amener le taux directeur à 2,25% sans vraiment de débat. Donc une décision quasi unanime, je pense.
Mais pourtant, on se dit que la situation actuelle n'est pas facile à appréhender pour la Banque Centrale Européenne. D'un côté, on a la guerre commerciale aux États-Unis qui risque de provoquer un ralentissement économique mondial et donc qui justifie une baisse de taux. Mais ça crée aussi de l'incertitude qui pousserait peut-être les banques centrales à attendre. Et de l'autre, on le disait, il y a la situation de l'inflation en zone euro qui laisse les coups des franches à la Banque Centrale Européenne pour baisser ses taux. Comment est-ce qu'elle va trouver sa ligne de crête entre les deux ?
Ouais, donc ce qui est sûr, c'est que l'incertitude sur le front commercial, ça lui complique la tâche. Il est très compliqué en réalité de savoir où mettre son taux directeur pour ramener l'inflation à 2% quand on ne sait pas exactement le taux de tarif que les US appliqueront à l'Europe. Mais je pense qu'il y a deux choses très importantes à garder en tête. La première, c'est que l'incertitude économique en elle-même a des effets. Donc, en général, quand on ne sait pas ce qui va se passer, on évite d'investir ou les entreprises ou les ménages n'empruntent plus. Et donc ça a tendance à faire peser sur la croissance et donc, in fine, faire ralentir l'inflation. La deuxième chose importante, c'est qu'on est en train maintenant d'apprendre que les tarifs douaniers de Trump seront peut-être un peu moins inflationnistes pour l'Europe qu'on ne le pensait. Car on a maintenant vu que l'euro s'est fortement apprécié et que l'Union européenne, pour l'instant, a très peu riposté. Donc ça, c'est deux choses qui, je pense, devraient permettre à la BCE de continuer à couper ses taux après la réunion cet après-midi.
1,1368 ce matin, c'est le niveau de l'euro-dollar. Comment est-ce que la BCE peut réagir face à l'appréciation de l'euro ?
Donc pour être clair, l'euro est une devise flottante et donc la BCE n'a pas vocation à influer sur son cours.
Mais on sait qu'au-delà d'un certain niveau, elle gêne les exportations.
Oui, évidemment. Donc la BCE le prendra en compte car comme vous le dites, l'euro influe sur l'évolution de l'inflation dans les années, trimestres qui viennent. Actuellement, on a vu une forte appréciation de l'euro. Donc ça va avoir tendance à faire baisser le prix des importations et donc à peser sur l'inflation. Je pense que c'est quelque chose que la BCE, dans le climat actuel, va accueillir et donc qui devrait lui permettre au final de couper encore un peu davantage.
Même si ce n'est pas complètement une mauvaise nouvelle, puisqu'un euro plus fort, ça permet mécaniquement de réduire le coût de notre facture pétrolière.
Exactement.
Et donc, dans le climat actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement. Quel est l'objectif, selon vous, à terme, de la Banque Centrale Européenne ? Elle a indiqué récemment que le taux neutre était situé dans une fourchette comprise entre 1,75 et 2,25. Avec la baisse d'aujourd'hui, on sera à 2,25, c'est-à-dire dans le haut de la fourchette.
Exactement. Donc, l'objectif à moyen terme, il est clair. Stabilité des prix, donc c'est faire revenir l'inflation à 2%. En pratique, comment est-ce qu'elle va faire ? Bah, scanner l'horizon, essayer de comprendre s'il y a des forces qui vont pousser l'inflation au-delà de 2% ou la garder en dessous de 2% et après ajuster son taux directeur en fonction. Si elle pense que l'inflation sera au-dessus de 2%, elle va placer son taux directeur au-dessus d'un niveau qu'elle juge neutre, donc au-dessus de 2%, et au cas contraire, cas échéant, le placer en dessous de 2%. Je pense qu'actuellement, on se dirige vers une situation où la croissance va être faible, notamment à cause de la guerre commerciale, et où l'inflation sera proche de sa cible ou légèrement en dessous. Et donc ça, je pense que ça devrait permettre à la BCE de couper son taux directeur davantage en juin, j'en suis quasiment certain, puis sûrement en juillet et peut-être même en septembre. Et donc ça l'amènerait vers un niveau 1,5% qui est légèrement en dessous du niveau que la BCE considère neutre.
Les marchés financiers restent particulièrement tendus aux États-Unis. Le S&P 500 hier soir a terminé en baisse de 2,2%. Le Nasdaq a cédé plus de 3%. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a pris la parole hier soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention ?
Je pense que ce qu'a dit Jerome Powell hier soir reflète un choix beaucoup plus compliqué pour la Fed que pour la BCE. Donc aux États-Unis, je pense qu'on va maintenant voir une croissance qui va ralentir de manière assez conséquente, mais une inflation qui va fortement accélérer. Et donc la Fed sera un peu tiraillée entre ces deux objectifs. Pour vous donner une idée, mes collègues aux États-Unis s'attendent à 3 coupes cette année, mais moi je parle à certains investisseurs qui s'attendent à aucune coupe. Donc il y a vraiment un spectrum de vue qui est assez différent. En Europe, au contraire, toutes les personnes à qui je parle s'attendent à ce que la BCE coupe au moins ses taux encore une fois après aujourd'hui, voire deux fois. Donc il y a un choix qui est beaucoup moins compliqué ici à faire qu'aux États-Unis.
On s'est souvent posé la question, mais si la Réserve fédérale américaine choisit le statu quo, si elle ne baisse pas ses taux cette année, est-ce que ça ne limite pas la marge de manœuvre de la Banque Centrale Européenne ? Qui pourtant est indépendante, mais on sait quand même que les choses sont liées et qu'on est toujours exposé à des phénomènes de carry trade notamment.
Donc c'est vrai qu'en général, vous voyez historiquement que la BCE suit la Fed, donc que les taux bougent ensemble. Je pense qu'actuellement, si la Fed ne baissait pas ses taux, ça mènerait sûrement à une appréciation du dollar. La BCE serait un peu plus contrainte sur le front de l'inflation. Donc vous n'auriez pas cette force dont je parlais auparavant qui aiderait à faire baisser l'inflation. Donc peut-être qu'elle-même serait un peu plus prudente, c'est vrai.
Merci beaucoup Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. La décision de la Banque Centrale Européenne, ce sera cet après-midi à 14h15, suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45. À suivre dans un instant, la matinale de Marc Bourreau jusqu'à 9h sur Radio Classique.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo, s'engage pour accélérer la transition agroalimentaire en déployant des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Retrouvez Fabrice Lundy dans Invivo, l'innovation agricole en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Retrouvez Éric Pincasse, rédacteur en chef du magazine Historia.
Et si nous partions à la rencontre des Bretons, explorateurs, artistes, combattants, entrepreneurs? Depuis 1500 ans, leur audace, leurs engagements, mais aussi leur créativité ont conquis la France. Une histoire qui ne manque pas de sel.
Votre magazine Historia en vente chaque mois chez votre marchand de journaux.
Chaque année, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence programme l'une des deux grandes passions de Pâques à l'occasion du Vendredi Saint. C'est la Saint-Matthieu qui sera interprétée demain soir par l'ensemble Les Ambassadeurs et la Grande Écurie, ainsi qu'un formidable plateau de solistes sous la direction de Thibaut Noaly. L'un des rendez-vous les plus attendus du festival, dont nous pourrons profiter cette année encore en direct sur Radio Classique, depuis le Grand Théâtre de Provence.
Vivez la magie du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec Laure Maison, demain à 20h30 sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur.
6h58 sur Radio Classique, la météo avec Virginie Fulpin. Au programme, Virginie, de la pluie à l'est et des éclaircies à l'ouest.
Le soleil se concentre sur la moitié ouest. Belles éclaircies ce matin, plus de nuages cet après-midi. À l'est, de la pluie, oui, avec les deux départements corse en alerte orange, pluie, inondation. De la neige dans les Alpes, la Savoie en alerte orange aux avalanches, surtout près de la frontière italienne. Il fera 10 degrés en Alsace cet après-midi, 11 à Lyon, 14 à Biarritz et 17 à Paris et Montpellier.
La matinale de Radio Classique continue jusqu'à 9h, je passe le flambeau à Marc Bourreau. Bonjour Marc.
Et je le prends. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Quatre lettres et un point d'interrogation ce matin.
DDPF, Défense des droits des prisonniers français. Derrière ce sigle, une dizaine d'incendies, de coups de feu, des menaces visant des prisons et des agents pénitentiaires depuis dimanche. Qui est à la manœuvre? L'ultra-gauche, une ingérence étrangère, le narcotrafic, comme l'estime de façon appuyée le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Une attaque coordonnée d'une telle ampleur couvait-elle dans les établissements pénitentiaires? Quelles conséquences sur la sécurisation des prisons? Frédéric Plequin, écrivain, journaliste d'investigation, spécialiste police, grand banditisme et renseignement intérieur, sera là pour nous répondre. Frédéric Plequin, invité de Radio Classique à 8h15. Dans cette matinale également, le bras de fer qui se durcit entre Paris et Alger, le gouvernement